National ce soir, discussion tendue entre parlementaires au sujet de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Les premiers articles votés préfigurent la pérennisation des mesures restrictives face à l'épidémie de coronavirus. Les annonces de Jean Castex ne convainquent pas les associations de lutte contre la précarité. Le Premier ministre a présenté ce midi un plan contre la pauvreté sans y inclure le relèvement des minima sociaux. Aux États-Unis, dernière ligne droite avant le 3 novembre, Donald Trump a voté par anticipation. Le président américain en pleine course au meeting pour tenter de refaire son retard. Dans ce journal, nous serons aussi en Pologne où le droit à l'avortement est de plus en plus menacé. Au troisième jour consécutif de mobilisation pour dénoncer ce nouveau tour de vis, vous entendrez les manifestants dans les rues de Varsovie. C'est une étape nécessaire pour prolonger le couvre-feu, voire instaurer un éventuel reconfinement. Les députés examinent aujourd'hui le projet de loi qui doit prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février prochain. Alors que 46 millions de Français doivent désormais se soumettre au couvre-feu, que la barre du million de cas positifs au coronavirus est désormais franchie, les députés doivent examiner une centaine d'amendements ce week-end pour entériner ou non la pérennisation de ces mesures restrictives. Bonsoir Adrien Palluet.
Bonsoir.
Et des débats assez agités aujourd'hui.
Oui, et pourtant, ce matin, à grand renfort de chiffres, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a appelé à la responsabilité des députés.
Je crois que l'heure, elle est à l'unité nationale, elle est à l'union face à la crise sanitaire. Il faut que nous montrions aux soignants de ce pays que la représentation nationale est capable de mettre sous couvert ces divergences politiques, ces vieilles bivises politiciennes, pour faire en sorte de consacrer tout son temps et toute son énergie à travailler ensemble au moyen de les protéger et les aider à protéger les Français. Je crois que c'est notre éminente mission et je vous demande de voter ce projet de loi.
Du côté de la majorité, sans surprise, on soutient le texte. À l'Assemblée, la députée La République En Marche de Gironde, Christelle Dubos, parle d'un texte équilibré qui doit permettre aux Français de continuer à travailler tout en étant protégés du virus. Un point de vue, bien évidemment, que ne partage pas l'opposition. La députée de la France Insoumise, Danielle Obono, a attaqué le ministre sur la gestion de la crise par le gouvernement et sur le vote au pas de charge de ce week-end. Même message à droite pour Raphaël Schellenberger, député Les Républicains du Haut-Rhin. Il est aussi impensable de voter un tel texte en seulement 2 jours et ainsi donner, je cite, un chèque en blanc pour 6 mois au gouvernement. Il plébiscite un réexamen du texte tous les 2 mois, et c'est dans ce sens que les Républicains ont déposé une motion de rejet préalable du texte avant les débats.
Adrien Palluet, merci. Et les députés ont voté l'article 1er qui prolonge donc cet état d'urgence sanitaire, mais aussi à l'instant l'article 2 qui prévoit une sortie entre le 16 février et le 1er avril prochain. La demande des associations sera restée vaine. Le gouvernement ne relèvera pas les minima sociaux comme le réclamaient certaines structures. Il va en revanche renforcer 2 dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle tout en prolongeant et en élargissant une aide au paiement des loyers. Jean Castex a dévoilé aujourd'hui de nouvelles mesures pour lutter contre la pauvreté. Un plan chiffré à près de 700 millions d'euros, insuffisant donc pour Marie-Alette Grard, présidente d'ATD Quart-Monde.
Les gens qui sont aux minima sociaux, ils ne s'en sortent pas. Ils ne vivent pas, ils survivent. Ils sont obligés d'aller à l'aide alimentaire. 850 euros par mois, c'est le minimum pour arriver à vivre. Parce que arriver à vivre, ça veut dire arrêter d'avoir ces contraintes de tous les jours se demander comment on va pouvoir donner à manger à ses enfants le midi et le soir et d'être obligé d'aller courir à droite, à gauche pour trouver des solutions chaque jour pour l'hébergement, pour la nourriture, voilà, pour tout ce qui fait notre vie courante. Nous avons rencontré Jean Castex il y a 3 semaines et nous lui avons demandé dans les premières mesures de relever les minima sociaux, ce qu'il n'y a pas du tout dans les mesures aujourd'hui. Qui est vraiment plus que dommageable. Parce que actuellement, les personnes qui sont aux minima sociaux ne peuvent pas accéder aux logements sociaux parce que leurs revenus sont trop faibles. Il faut que ces personnes puissent, parce qu'elles ont envie d'avoir un emploi, mais puissent aller chercher un emploi. Quand on est obligé d'être déjà dans la survie, on ne peut pas aller rechercher un emploi.
Marie-Alette Grard, présidente d'ATD Quart-Monde, au micro de Louise Adélaïde Boinard. Aujourd'hui, Jean Castex s'exprimait aussi au sujet des petites et moyennes entreprises. Il a signé cet après-midi un protocole du plan de relance lors de son déplacement à Marseille. À Belfort, l'affluence semble loin de celle tant espérée par les syndicats chez General Electric. Un peu plus de 900 personnes sur les 5000 espérées ont défilé cet après-midi. Selon les syndicats, le site belfortin a déjà perdu plus de 1000 emplois ces dernières dernières années. Et le groupe américain prépare un nouveau plan qui menacerait 750 emplois. C'est un record aux États-Unis. À 10 jours désormais de l'élection présidentielle du 3 novembre, près de 55 millions d'Américains ont déjà voté, soit déjà plus du tiers de la participation d'il y a 4 ans. Donald Trump n'est pas en reste. Le président américain a voté par anticipation en Floride, son état d'adoption, Loïc Loury.
J'ai voté pour un type qui s'appelle Trump, le président en apparence détendu a ainsi plaisanté en sortant de l'isoloir. Le patron de la Maison-Blanche a déposé son bulletin par anticipation en Floride, arrivé masqué dans une bibliothèque de West Palm Beach. L'occasion encore une fois de dénoncer sans preuve les fraudes qu'il attribue au vote par correspondance. C'était un vote très sécurisé dans les règles, bien plus que lorsque vous votez par courrier, je peux vous le dire. Ça ne peut pas être pareil quand vous postez votre bulletin. Et d'évoquer la suite de sa campagne. Aujourd'hui, on va faire 3 arrêts, de gros événements. Peut-être, je le crois, qu'on n'a jamais vu ça. L'état d'esprit est superbe. J'ai entendu dire qu'on se débrouillait très bien en Floride, mais aussi qu'on se débrouillait très bien partout ailleurs. La Caroline du Nord, l'Ohio, puis le Wisconsin, 3 états clés et 3 meetings pour Donald Trump en une demi-journée. Le président fait campagne sur le même rythme qu'en 2016, malgré une situation sanitaire inquiétante. 80 000 contaminations au Covid en 24 heures. C'est un record. En face, Joe Biden reste donc loin des foules avec 2 déplacements sous forme de drive-in en Pennsylvanie et l'apparition prévue du chanteur Bon Jovi. De quoi mettre un peu de sel sur sa campagne bien ennuyeuse mais efficace à en croire les sondages.
Washington dans un bras de fer avec Ankara. La Turquie rejette les critiques des États-Unis au sujet de son nouveau système de défense aérienne. Washington irrité par l'achat et le test hier des S-400 vendus par la Russie, incompatibles avec les engagements turcs envers l'OTAN, dit la Maison-Blanche. Un autre dossier qui vient enrichir la longue liste de désaccords entre la Turquie et la France. Cette fois, après les tensions en Méditerranée, le conflit en Libye ou les affrontements au Karabakh, nouvelle invective du président turc à l'encontre d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan critique avec virulence l'attitude du président français envers les musulmans. Il met en question sa santé mentale. Le chef d'État turc vise les propos d'Emmanuel Macron sur ce qu'il a appelé le séparatisme islamiste. Liberté, égalité, droit des femmes. Slogan entendu aujourd'hui dans les rues de Varsovie et plus largement en Pologne pour la 3e journée consécutive de larges manifestations contre la restriction encore plus sévère du droit à l'avortement. Le tribunal constitutionnel a interdit jeudi l'IVG en cas de malformation grave du fœtus. Une décision sans consultation contestée par l'opposition libérale. Les manifestants réclament un référendum sur le sujet et l'ont fait entendre aujourd'hui, Sarah Bakaloglou.
Devant le siège du parti au pouvoir, Monika ne mâche pas ses mots. Cette Polonaise est une habituée des manifestations contre le gouvernement. Pour la jeune femme, c'est lui qui est derrière la décision du tribunal constitutionnel.
Ce n'est pas seulement à propos de l'avortement. C'est à cause de la manière dont le gouvernement, pendant la nuit, nous retire nos droits. C'est la manière dont ils le font, la manière dont ils nous traitent. Depuis que le parti Droit et Justice est au pouvoir, on manifeste toujours pour les mêmes choses. Les droits des femmes, les LGBT+, et les réfugiés.
Malgré la pandémie de Covid-19, les manifestants tiennent à montrer leur colère, car se rassembler est tout ce qui leur reste, selon Alicia, une habitante de Varsovie.
Vous savez, le pire, c'est que notre choix ne compte pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est être ici. Cela ne changera rien, mais c'est la seule chose que vous pouvez faire. Je me sens impuissante, car je peux juste venir ici, mais cela ne changera pas le fait que le gouvernement peut faire ce qu'il veut de nous. Comme vous voyez, on est très énervés, et ça ne fait que monter, année après année, même jour après jour. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau.
Une mobilisation qui ne compte pas s'arrêter là. Des blocages de la circulation et des grèves sont prévus la semaine prochaine.
En Guinée, le président sortant Alpha Condé revendique la victoire à l'élection présidentielle. Plus de 59% des voix selon la commission électorale. Un score qui lui offre un 3e mandat controversé dans un contexte de forte tension dans le pays. Les violences post-électorales ont fait encore au moins une dizaine de morts parmi les civils ces derniers jours. La météo pour demain matin, un temps perturbé depuis la Bretagne et les Pays de la Loire qui donneront des averses parfois orageuses du Poitou jusqu'à la Champagne-Ardenne et des éclaircies de l'Aquitaine à la Lorraine. Mais un vent fort ailleurs, du soleil. Les températures matinales iront de 7 jusqu'à 13 degrés et jusqu'à 15 degrés en Corse. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia à la technique, Thibaut Nassimben.